Bonjour, donc et bienvenue à ce cours. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de tissu. C'est pas un sujet qui est très... Excusez-moi, j'ai un problème de voix, donc... C'est pas un sujet qui est très classique pour les physiciens, mais je pense que décrire les tissus en biologie, c'est une entreprise qui est très très interdisciplinaire, qui doit certes faire intervenir des biologistes, mais que les physiciens ont tout à fait leur rôle à jouer. Il y a quelques années, l'Institut américain de recherche contre le cancer a même fait un appel d'offres explicitement ouvert uniquement aux physiciens. Je vais faire le cours au tableau, parce que j'aime bien faire les cours au tableau. Évidemment, je suis absolument incapable de faire quelques dessins que ce soit, donc les dessins, je vous montrerai des slides, mais j'essaierai de faire au maximum le cours au tableau. Je suis physicien, donc je vais présenter les choses comme un physicien. Ceci dit, je vais parler d'objets biologiques. Il se peut qu'il y ait un problème de langage. Alors, je vais un peu prendre cette occasion pour vous dire, posez des questions. À la limite, plus vous en posez, plus je suis content. C'est bien plus agréable d'avoir un feedback que ce que vous me regardiez tout seul au tableau. Donc, surtout, n'ayez pas peur de poser des questions. Le pire qui puisse arriver, c'est que je ne sois pas capable de répondre à la question. Je vous promets, j'irai chercher une réponse. On connaît suffisamment de gens pour être à peu près sûr de trouver une réponse. Donc voilà, après le cours, donc, il y a un séminaire. Le séminaire a lieu à 17h15. Aujourd'hui, c'est Stéphane Grill qui vient de l'Institut Max Planck à Dresde qui devrait présenter un séminaire. Je ne l'ai pas vu encore, il devait arriver à 13h. Donc on espère qu'à 17h15, il aura trouvé son chemin et qu'il sera là. Donc, l'objectif, donc mon cours, les deux premiers cours, comme je pense que la culture des gens ici est assez hétérogène, les deux premiers cours, je vais faire une introduction avec des choses très très simples et très très classiques qui reviendront après dans le cours qui sera un peu plus spécialisé. Donc, les deux premiers cours, je les ai appelés Introduction à la physique des tissus. Comme je disais, je pense que la physique a une contribution importante à appliquer à l'étude des tissus. Ça couvre pour moi plusieurs domaines. Le premier, c'est la mécanique des tissus. Je ne vais pas discuter trop la mécanique maintenant, mais par exemple, les tumeurs cancéreuses croissent dans un espace confiné. Elles sont comprimées, et donc les propriétés mécaniques jouent un rôle. Ça va être une grande partie du cours de cette année. À la mécanique, il faut coupler la croissance des tissus. Donc le deuxième type de question que je vais discuter, c'est tout ce qui est croissance et division cellulaire. Je ne crois pas qu'il faille s'arrêter là. Alors, il y a une échelle plus grande que celle du tissu, qui est de regarder le tissu dans une échelle globale. C'est ce qu'on appelle la morphogénèse. La morphogénèse, c'est l'étude de la forme des tissus. Cette forme des tissus, elle résulte d'un couplage entre la croissance et les propriétés mécaniques du tissu. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est relié à la mécanique. Il y a d'autres propriétés qui sont importantes sur lesquelles les physiciens ont des choses à dire. Deux que j'ai envie de mentionner. La première, c'est la différenciation cellulaire. La différenciation cellulaire, c'est le fait que dans un tissu, il y a plusieurs types de cellules et que certains types de cellules peuvent se transformer en d'autres types de cellules. Je crois qu'il y a l'influence de ça sur la physique est quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a un dernier point qui est absolument essentiel, c'est que la croissance des tissus, comme tous les processus biologiques, est un phénomène qui est régulé. Et donc, il y a tout ce qui est régulation de la croissance, qui est aussi quelque chose qui va être important. Alors, ce par quoi je veux commencer, c'est par vous dire ce que je ne vais pas faire. Alors, ce que je ne vais pas faire, c'est quelque chose de très extensif, essayer d'aller regarder tous les tissus possibles et tous les comportements possibles. J'en suis absolument incapable, il faut être honnête. Ce que je veux, c'est choisir des questions physiques qui sont assez génériques, c'est-à-dire des questions physiques qui apparaissent dans plusieurs tissus, et puis sur ces questions physiques, vous montrer ce que le physicien peut faire. Ça ne veut pas dire que l'autre approche n'est pas intéressante. Alors, il s'avère qu'au Collège de France, il y a un cours qui a été fait il y a 6 mois par Thomas Lecuy. Regardez-le, c'est sur le web. Il fait une revue bibliographique absolument extensive, remarquablement bien faite, et ça vous montrera un peu la façon dont un biologiste aborde ces problèmes de tissus à une échelle qui est un peu la même que celle que je veux discuter aujourd'hui. Alors c'est assez complémentaire parce qu'on a des cultures assez différentes. Les styles ne sont pas très semblables non plus parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire quelque chose d'assez extensif. Moi, j'insiste bien sur le fait que je ne vais absolument pas être extensif. C'est des sujets que j'ai choisis un peu parce que je les connais, un peu parce que j'ai trouvé des articles dans la littérature qui étaient importants sur ces sujets-là, et je me limiterai à un certain nombre de sujets petits pour lesquels la physique me paraît intéressante, pas seulement pour la biologie, mais souvent c'est de la physique qui est intéressante en soi, au moins pour ce que j'aime moi. Alors avant de commencer, je voudrais dédier ce cours à Suzanne Itton. Suzanne Itton est une chercheuse de l'Institut Max Planck de Dresde, le même institut dont vient Stéphane Grill. Elle a été assassinée cet été de façon très très sauvage en Grèce. C'est quelqu'un qui était sur la liste des gens auxquels j'avais pensé à inviter pour venir faire un séminaire cette année. C'est un peu tragique, c'est quelqu'un qui travaillait sur le développement de la drosophile. Moi j'ai organisé 2 ou 3 conférences même avec elle et Franck Julisseur sur les tissus. C'était une biologiste, mais c'était une biologiste qui discutait beaucoup avec les physiciens et de qui j'ai beaucoup appris. Donc je souhaite dédier ce cours à Suzanne Itton. Alors la première chose qu'on peut faire pour étudier les tissus, c'est de se dire ben, on va étudier les cellules en détail, et puis à partir des cellules, on va passer au comportement des tissus, qui sont des assemblées de cellules en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Ceci dit, je veux insister sur le fait que la biologie cellulaire est une science absolument remarquable. Alors avant, j'ai oublié de vous montrer Suzanne Itton. Donc voilà Suzanne, donc, qui est décédée cet été. Et il y a des résultats magnifiques qui ont été obtenus sur à peu près toutes les propriétés de cellules qui sont individuelles. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup, je vais vous en montrer une, et je vais vous en montrer une sur la division cellulaire, parce que le thème un peu récurrent de mon cours cette année, et je pense que je recontinuerai à faire un cours sur les tissus l'année prochaine, ça sera la division cellulaire. Donc je vais vous montrer un résultat expérimental sur la division cellulaire. Ça rappellera quelque chose à Hervé Thurier qui est là, puisque c'est des choses qu'il a étudiées dans sa thèse. Ce que vous voyez là, c'est un œuf. Donc c'est des œufs. C'est un œuf qui est un œuf d'oursin. Et c'est la première division de leurs oursins que je vous montre ici. Avant la division, alors c'est toute l'étape que les gens connaissent en général bien. C'est toute l'étape que les gens connaissent en général bien, c'est la mitose. À la mitose, la cellule est sphérique. La cellule est sphérique parce qu'elle a une tension importante. Et exactement comme les gouttes de liquide, quand vous avez une tension importante, l'objet devient sphérique. Donc la cellule est sphérique, et puis l'œuf se divise en 2 cellules. Vous voyez la façon dont il procède. Il se contracte au milieu, il prend cette forme ici, qui est une forme un peu de cacahuète. Puis il y a un anneau qui se forme, l'anneau se contracte, et puis on arrive à couper la cellule en 2. Ça, c'est ce qui se passe quand on étudie une cellule isolée. Alors je peux vous montrer un film, évidemment accéléré. Regardez celle-là. Voilà une cellule qui se divise. Et vous voyez, à la fin, j'ai 2 cellules qui sont encore à côté ici. Elles vont se séparer et puis elles vont regrossir pour continuer le développement de cet objet-là. Parfois, ça rate. Donc, ce qui est montré ici, c'est une division qui rate. La cellule commence à se diviser et puis quand elle a atteint un certain degré de constriction, la division s'arrête et la cellule redevient sphérique. Donc, c'est en gros ça le motif général du cours, c'est qu'est-ce que fait la division cellulaire dans les tissus et à quoi est couplée la division cellulaire. Alors une autre chose qu'on apprend de la biologie cellulaire, c'est que le comportement d'une cellule dépend de son environnement. Et ça, c'est essentiel dans les tissus. Une cellule ne se divise pas de la même façon quand elle est isolée que quand elle est entourée d'autres cellules. Alors une façon de voir ça, qui est une façon un peu de physicien, c'est de dire, bien sûr, dans un tissu, une cellule va interagir avec les cellules voisines, et ce qui compte, c'est ses interactions avec les cellules voisines. Il y a un comportement collectif des cellules. Et en gros, le but de mon cours, c'est de décrire ce comportement collectif des cellules, à tel point que je vais à peine parler des propriétés des cellules isolées. Je ferai peut-être un cours là-dessus plus tard, mais je vais parler de très très peu de propriétés des cellules isolées. Et je vais retenir de ça simplement que les cellules se divisent. Quand une cellule se divise, on passe d'une cellule à 2 cellules. J'ai parlé des propriétés mécaniques des cellules. Je peux dire un tout petit mot en plus, parce que ça va ça aussi être une très grande partie du cours. Je disais que quand une cellule, quand une tumeur pousse dans un organisme, l'espace libre pour la tumeur est petit, et donc la cellule est comprimée. Donc on n'a pas un tissu qui est libre, on a un tissu qui est comprimé. Ça veut dire qu'il y a des contraintes mécaniques dans le tissu, et il s'avère que la division cellulaire, le taux de division, c'est-à-dire le nombre de divisions cellulaires par unité de temps, dépend des contraintes dans le tissu. Donc il y a un couplage entre la mécanique et la croissance. Mais il y a aussi un couplage dans l'autre sens, parce que quand une cellule est piégée dans un tissu, elle a des cellules voisines, elle doit croître, et pour croître, elle pousse sur les cellules voisines. Et ça, une cellule qui se divise, ça veut dire qu'elle crée des contraintes, et qu'elle crée des contraintes mécaniques dans le tissu dans lequel elle se divise. Donc là, vous avez un peu l'interaction dans les deux sens. Les contraintes mécaniques influencent la division cellulaire, et on verra que si la contrainte est trop grande, le taux de division diminue. Et puis, la division cellulaire elle-même a un rôle sur les contraintes mécaniques. Tout ça, ça conduit à une mécanique des tissus qui est quelque chose d'assez particulier. C'est des comportements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors tout à l'heure, je vous dirais, une façon de regarder le problème, c'est de dire finalement un tissu, c'est un matériau. Je peux essayer de faire de la physique des matériaux sur un tissu. C'est un matériau, mais c'est un matériau où les cellules se divisent et où les cellules peuvent mourir. Donc ce n'est pas ce que font les gens d'habitude en physique des matériaux. Ils ne regardent pas des matériaux dont le nombre de particules est constant, ou le nombre de cellules est constant. Quand on regarde des tissus, le nombre de cellules va augmenter parce que les cellules se divisent, et puis le nombre de cellules va diminuer parce que les cellules meurent. Et ça, ça conduit à des comportements de matériaux qui ne sont pas classiques du tout, et qui sont assez originaux. C'est une façon de regarder le comportement des tissus. Ça, c'est plutôt la façon que je regarderai l'année prochaine. Ça, c'est ce qui se passe quand je regarde les cellules à plus grande échelle. Donc, il y a un problème qui a été énormément discuté, c'est la morphogénèse, c'est-à-dire quelle est la forme que prend les tissus. Une des raisons d'étudier les tissus, c'est la biologie du développement. Bien sûr, les formes en biologie du développement doivent être extrêmement bien contrôlées. Ça veut dire que la mécanique doit être couplée et régulée de façon à produire les bonnes formes, autrement l'organisme ne se développe pas comme il faut. Donc voilà un peu une revue un peu brève des choses que je vais essayer de discuter cette année. Et puis, au fur et à mesure de ce cours et du cours prochain, je vous montrerai un peu plus en détail les questions que je souhaite aborder. Alors, mon premier chapitre n'est pas très original, je l'ai appelé « Cellules et tissus ». Donc, mon premier point, c'est que la brique élémentaire de tous les systèmes vivants... Voilà Stéphane Grill, donc le séminaire est sauvé. Tous les tissus sont formés de cellules, et dans tous les organismes vivants, on a des cellules qui ont des propriétés qui sont remarquablement conservées. C'est ce que je vais appeler la brique élémentaire des tissus, c'est la cellule. Et comme je disais, je vais vous décrire très peu de propriétés des cellules. La première, peut-être, c'est les propriétés mécaniques des cellules. Alors les gens ont fait des expériences, on peut appuyer sur une cellule et puis regarder comment elle se comporte. En gros, elle a un comportement élastique. Une cellule, ça a un module élastique, c'est 1000 pascals. Alors c'est très petit, 1000 pascals. Ça, c'est 10 puissance 11 pascals. Un caoutchouc, c'est 10 puissance 6. Ça, c'est la semelle de mes chaussures. C'est 3 ordres de grandeur un peu plus bas. Les choses que vous connaissez, que ces dames connaissent bien, c'est les gelées qu'on met dans la cuisine. Les gelées, la gélatine ou les choses comme ça, ça a un module élastique d'à peu près 1000 pascals aussi, entre 1000 et 10 000 pascals. Et c'est ça, l'élasticité d'une cellule. Alors pourquoi est-ce que la cellule a ce type d'élasticité? Les gens ont fait beaucoup d'études, mais à la fin de l'histoire, c'est assez simple. Ce qui fait l'élasticité des cellules, c'est des filaments qui sont à l'intérieur du cytoplasme. Donc voilà, ici, une coupe d'une cellule. Vous avez la membrane ici. Il y a toutes les organelles qui flottent au milieu. Et puis tout l'espace à l'intérieur de la cellule qui n'est pas occupé par les organelles, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. À l'intérieur de ce cytoplasme, vous avez des filaments qui se comportent un peu comme des polymères, et c'est ces filaments-là qui font l'élasticité de la cellule. Alors je peux être un tout petit peu plus précis. Ça, c'est une vraie image de cellule. Ce qui est marqué en vert ici, c'est un filament qui s'appelle l'actine. Donc l'actine fait des filaments qui ont une quinzaine de microns de long, et ces filaments sont réticulés, ils sont attachés entre eux, et c'est ça qui donne le comportement élastique. L'actine domine, au moins à des déformations raisonnables, le comportement mécanique des cellules. L'autre chose qui est importante, c'est que l'actine interagit avec des moteurs moléculaires. Alors en général, avec l'actine, et ça ne sera pas très important, ces moteurs moléculaires s'appellent des myosines. Ça, c'est des molécules, des protéines, qui consomment de l'énergie, donc ils consomment de l'énergie chimique sous forme d'ATP qui est hydrolysée, et ils produisent des forces et ils créent des mouvements. Et ce qui fait le cytosquelette, c'est l'actine en interaction avec la myosine. En fait, on a un assez bon modèle de ce cytosquelette d'actine et de myosine. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté au cours de l'année dernière, j'ai parlé de matière active. Ça, je vais juste dire en un mot que c'est des matériaux qui sont formés de constituants élémentaires, dans ce cas l'actine et la myosine, et qui consomment de l'énergie, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'équilibre thermodynamique, et ils consomment de l'énergie à l'échelle de leurs constituants. Alors, je n'ai pas trop insisté là-dessus l'année dernière, parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails de la biologie, mais en fait, cette théorie de la matière active, on l'a mise au point pour décrire ce cytosquelette d'actine et de myosine. Donc, on sait faire des choses là-dessus. Vous allez voir qu'on en a très peu besoin, en fait. Mais si on déchant à l'échelle inférieure, on peut considérer que le cytosquelette, c'est un matériau actif pour lequel on a un modèle assez bien défini et qui est un modèle de type hydrodynamique. Donc, voilà ce qui fait l'élasticité d'une cellule. Et si on fait des modèles pour ces gels d'actine, on trouve qu'effectivement, le module élastique est quelque chose comme 1000 à 10 000 pascal. Alors, ce que vous voyez là, c'est un peu plus spécifique. Il y a des fibres, et ces fibres qui passent soit au-dessus, soit au-dessous du noyau, s'appellent des fibres de stress. Donc, voilà à quoi est due l'élasticité des cellules. La seule propriété qui va être importante, mais les seules propriétés auxquelles j'aurais envie de faire référence pendant ce cours, ça sera des propriétés globales, comme la propriété mécanique du cytosquelette. Alors, je vais vous en montrer une autre, en grande partie parce que j'ai trouvé l'image magnifique, qui est la polarité des cellules. Ça, c'est un dessin qui a été fait en 1918 par ce monsieur qui s'appelle Henry Van Dyck Parker. J'ai trouvé ça dans la thèse de Nicolas Armand, qui est l'étudiant de Sylvie Hénon. Et ce que montre ce dessin, c'est des reins de porc. Vous voyez qu'il y a ici des cellules qui forment une cavité. La polarité, c'est le fait que la cellule n'est pas la même vers l'intérieur de la cavité, donc dans le lumen de la cavité, que ce qu'elle est à l'extérieur. Donc les deux surfaces de la cellule ne sont pas équivalentes. Il y a une surface basale, qui ici est la surface extérieure, et puis il y a une surface apicale qui est celle qui est en contact avec le lumen. Si je prends ça comme un physicien, si les deux surfaces ne sont pas équivalentes, ça veut dire que je peux tracer un vecteur sur chaque cellule qui donne l'orientation de la surface basale par rapport à la surface apicale. Et puis après, évidemment, s'il y a une orientation, on peut se demander comment les cellules s'orientent les unes par rapport aux autres. Ici, vous voyez qu'elles se bouclent sur elles-mêmes, mais toutes les surfaces basales sont du même côté et toutes les surfaces apicales sont d'un autre côté. La polarité des cellules, c'est le type de paramètre que j'ai envie de retenir. Alors, j'ai parlé de régulation tout à l'heure. Je vais garder la polarité. J'ai parlé de régulation. La régulation, elle se fait parce que les cellules relarguent dans le milieu extérieur des composants chimiques, des morphogènes, et c'est ces morphogènes-là qui sont à l'origine de la régulation. Donc, en plus de la cellule, il faudra que je garde trace des molécules qui sont sécrétées et qui peuvent intervenir sur la cellule. Quand je dis intervenir sur la cellule, c'est moduler l'expression des gènes. Donc, il y a des morphogènes qui régulent l'expression des gènes. Alors, l'esprit que je veux prendre ici, c'est de garder un certain nombre de propriétés des cellules, parce que je pense que si j'étudie le tissu à grande échelle, à une échelle plus grande que l'échelle de la cellule, ces propriétés-là sont pertinentes. Ça ne veut pas dire que les autres jouent pas, mais ça veut dire que les autres, elles vont influencer les paramètres que je regarde ici. Évidemment, à la fin, on aurait envie d'avoir des théories à toutes les échelles, mais c'est bien plus difficile. Par contre, ce que j'ai fait une grande partie de ma vie, c'est ce qu'on appelle la physique de la matière molle. Et un des enseignements peut-être les plus importants de la physique de la matière molle, c'est que il y aurait une autre attitude qui est de dire, ben, je vais partir de l'échelle des molécules. À partir de l'échelle des molécules, je vais expliquer le comportement des cellules. Puis à partir du comportement des cellules, je vais expliquer le comportement des tissus. On peut faire ça dans une certaine manière, mais quand on fait ça, on fait plein d'approximations. Et parfois, on en fait tellement que le résultat qu'on a n'est pas à la fin suffisant pour décrire les résultats expérimentaux. Une approche qui s'est avérée bien plus utile en physique de la matière molle, c'est-à-dire quand on étudie les fluides complexes, c'est de se placer à grande échelle et d'essayer de décrire les propriétés à grande échelle par un petit nombre de paramètres. Ce petit nombre de paramètres, c'est ce que j'ai appelé les propriétés globales ici. On a peu de paramètres, on peut utiliser les propriétés de symétrie du système, c'est pour ça que j'ai parlé de polarité, et à partir de ça, on peut construire des théories qui sont très très générales et très très génériques. La seule différence entre des tissus différents, ça va être que les paramètres vont être différents. Bien sûr, il y aura des comportements possibles différents suivant les paramètres, mais c'est plutôt ce genre d'approche que j'ai envie d'appliquer, et j'ai envie de l'appliquer parce que je sais que pour des fluides complexes, c'est ça l'approche qui marche le mieux. Donc on sait très bien décrire... on sait très bien décrire les fluides complexes par des approches comme ça. Alors, la première idée naïve, c'est de dire dans un tissu, il y a des cellules, et puis je vais considérer un tissu comme une assemblée de cellules. Alors, je vais beaucoup faire ça, ce n'est pas tout à fait exact. Alors, bien sûr, je peux dire qu'un tissu, c'est des cellules qui interagissent. Entre les cellules, il y a un fluide, il y a de la matrice extracellulaire. J'ai parlé des molécules qui étaient sécrétées. Dans une première approximation, je vais considérer qu'il y a un seul composant que je vais appeler la cellule, avec les propriétés qui sont là. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on essaiera de raffiner la description. Raffiner la description, ça veut dire introduire ces paramètres supplémentaires que dans un premier temps, j'aurais oublié, parce que j'aurais considéré que tout est caché dans la cellule. Donc ma première approche, ça sera de dire, je considère qu'il n'y a que des cellules dans un tissu. La cellule, c'est un objet. Cet objet, il a un certain nombre de propriétés. Et à partir de cette propriété, je vais construire le tissu. Je vais faire un modèle à un composant. L'idée, c'est qu'on regarde quand même des systèmes qui sont extrêmement complexes, où il y a énormément de paramètres. Il y a énormément de paramètres qui sont connus. Les biologistes ont accumulé une quantité de données qui est absolument fabuleuse. Et en gros, ce que je suis en train de faire, c'est de vous dire que j'ai envie d'en oublier le maximum pour arriver à décrire les tissus de façon raisonnablement générale à grande échelle. Et puis, dans certains cas, les propriétés seront plus spécifiques, et quand les propriétés sont plus spécifiques, il faudra revenir à une description que moi j'appellerai plus microscopique et qui fait intervenir les paramètres. Alors, dans cette description physique des tissus, je vais distinguer deux approches. La première, c'est ce que je vais appeler une approche microscopique. Je vais juste vous montrer une image ici qui illustre bien ce que je vais appeler cette approche microscopique. Ce que vous voyez là, donc c'est ici, il y a plusieurs images, mais c'est un tissu épithélial, donc c'est un tissu qui est à la surface d'un organe, et c'est un tissu de la drosophile pendant son développement. Et ce qui est marqué, c'est les jonctions entre cellules. Alors je vais vous parler dans 5 minutes d'un monsieur qui s'appelle Darcy Thompson. Et Darcy Thompson, je pense que c'est le premier, quand il a vu ça, il a répondu, mais ça ressemble à une mousse. Ça ressemble à une mousse à deux dimensions. Alors les mousses à deux dimensions, c'est quelque chose que les physiciens aiment bien, et les théoriciens comme moi peuvent presque faire des expériences là-dessus. Il y a une vingtaine d'années, la façon dont les gens faisaient des expériences était encore moins sophistiquée que celle qu'a Métienne. Ils prenaient deux transparents, c'est l'époque où on n'avait pas d'ordinateur, on mettait des transparents, ils mettaient une goutte de savon, ils écrasaient, ils attendaient un peu, ils allaient faire une photocopie, et puis ils obtenaient une image qui ressemblait à celle-là. Alors la mousse évolue parce qu'elle draine. Donc la géométrie des cellules change. Ici, la structure va évoluer, pas parce qu'il y a du drainage, mais elle va évoluer parce que les cellules se divisent, les cellules meurent et les cellules se réarrangent. Mais en gros, ce qu'on a appris sur les mousses à deux dimensions, ça va être utile pour décrire ce genre de matériaux. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que ça, c'est l'image du tissu vu de dessus. C'est-à-dire les cellules... Il y a un petit dessin ici. Les cellules, elles ont des formes qui sont cylindriques ici. La base du cylindre, c'est un polygone, en général. Et si vous regardez là, ce qu'on voit, c'est des polygones assez bien définis, avec des surfaces qui sont bien droites. Donc il y a un pavage du plan par des polygones. Mais évidemment, une cellule réelle, elle a une hauteur, elle a un volume fini. Et puis ce qui est même dessiné là, c'est le noyau qui déforme un peu les bords de la cellule. Donc l'approche la plus simple, c'est de dire, je regarde la surface, je vais oublier tout ce qui se passe en dessous, et je vais essayer de décrire ce qui se passe dans la surface uniquement en regardant ce qui se passe à l'échelle des polygones qui sont sur la surface. Ça s'appelle un modèle de vertex. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus maintenant, je passerai au moins 2 cours à expliquer comment marchent ces modèles de vertex et qu'est-ce qu'on peut obtenir par ces modèles de vertex. Vous voyez là que je fais une approximation qui est assez gigantesque parce que je ne fais même pas référence au volume de la cellule, je ne fais référence qu'à l'air sur la surface que je vois de la cellule. Alors je vais quand même vous montrer quelque chose, c'est un film. Donc c'est une évolution qui a été faite justement pour étudier la croissance d'un épithélium de la drosophile par mon collègue Frank Julicher. Et ce qu'on peut regarder, c'est comment croît le tissu. Je vais vous montrer ce film. Donc il y a des processus de division et de réarrangement qui font croître le tissu. Plus les cellules se divisent, plus le tissu croît, et plus la taille du tissu augmente ici. Ce qui est regardé là, c'est les polygones qui font la surface, et le code de couleur code pour le nombre de côtés de chacun des polynômes. Alors, comme je vous l'expliquerai dans deux cours, la moyenne du nombre de côtés, c'est forcément 6 dans cette histoire-là. Donc il y a beaucoup de polygones à 6 côtés, mais pas que. Et en particulier, les cellules qui meurent sont plus petites, elles vont disparaître de la surface. Et c'est la compensation entre ces effets-là qui va faire la croissance du tissu. Ça paraît rustique, on arrive à faire des choses très très sophistiquées avec ça et qui sont en très très bon accord avec l'expérience. Vous verrez que pour faire un modèle comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de paramètres. Donc pour le physicien, c'est quelque chose d'un peu idéal. C'est des modèles qu'on peut étudier assez en détail et on peut les comparer au tissu et voir ce qui manque. Donc ça, c'est ce que j'appelle la description microscopique des tissus. Et c'est en gros à ça que je veux consacrer la plus grande partie du cours de cette année, peut-être en parlant un peu de régulation aussi. Et puis une approche bien plus macroscopique. Alors, j'ai cherché longtemps qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme image pour illustrer l'approche macroscopique. Ce que j'ai mis là, c'est un tissu épithélium, donc c'est un tissu qui borde la surface d'un organe qui est l'utérus dans ce cas-là. Vous voyez que c'est assez compliqué, donc le tissu épithélium, il commence ici, il y a une membrane, et la coloration, elle vous indique les cellules qui sont en train de se diviser. Donc toutes les cellules noires, il y a un marqueur de la division cellulaire. Je ne sais pas s'il y a des biologistes parmi vous, mais ils pourraient vous expliquer comment on fait ça. Ce n'est pas très important pour moi. Les cellules se divisent au voisinage de la surface ici. Et puis après, évidemment, il n'y a pas de place sur la surface, donc elles passent dans les couches du dessus. Et donc il y a une migration des cellules du bas vers le haut, et les cellules meurent en haut de l'épithélium. Ce que j'ai envie de faire, moi, et c'est ce qu'on a fait sur ces problèmes-là, c'est de dire, finalement, ça, c'est un matériau. Alors, je vous ai dit que la cellule était élastique. Est-ce que le tissu lui-même est élastique? Alors, on a des exemples où des assemblages de matériaux élastiques peuvent couler, par exemple. Est-ce que le tissu coule? Est-ce que le tissu est élastique? Et puis, surtout, quel comportement solide on peut avoir pour le tissu? Donc, ce que j'ai envie de faire dans un problème comme ça, et c'est beaucoup ce qu'on a fait à Curie, c'est d'obtenir ce que les mécaniciens appellent une loi de comportement. On peut définir une contrainte à l'intérieur du tissu, ça c'est la force locale. On peut définir une déformation, et ce qu'on veut, c'est la relation entre la force et la déformation. Alors je ne suis pas très imaginatif, en fait il y a un certain nombre de relations entre force et déformation qu'on connaît. La première, c'est un fluide. Dans un fluide, la contrainte, elle est proportionnelle à la dérivée temporelle de la déformation. Ça c'est le gradient de vitesse. Donc pour qu'un fluide coule, il faut que la vitesse ne soit pas homogène, parce qu'autrement il se translate comme ça, et je peux très bien translater un solide. Donc il faut qu'il y ait un gradient de vitesse. Et puis si la relation est linéaire, ce qui n'est pas toujours le cas, la contrainte est proportionnelle à ce gradient de déformation, et le coefficient de proportionnalité, c'est la viscosité. Donc ça, c'est un comportement possible, et un certain nombre de tissus sont fluides, un certain nombre de tissus ne sont clairement pas fluides, parce que si vous regardez une plante, le tissu ne coule pas. Et en gros, si vous la déformez, ça se comporte comme un solide. Donc il y a un comportement solide. Pour moi, un comportement solide, c'est quand la contrainte est proportionnelle à la déformation. Alors, enfin, un peu plus précis, c'est quand, si j'applique un cisaillement, la contrainte est proportionnelle à la déformation. Et le coefficient de proportionnalité, c'est justement le module élastique dont je parlais tout à l'heure pour l'élasticité de la cellule. Donc ça, c'est des comportements un peu extrêmes. Ça, c'est ce qu'on vous a dit à l'école. Il faut savoir qu'il y a plein de comportements intermédiaires. Alors, il y a des comportements intermédiaires, par exemple, qu'on appelle viscoélastiques, où si je déforme un matériau, à temps court, il se comporte comme un solide, et puis au bout d'un certain temps, il commence à couler. Ça, c'est ce qu'on appelle un matériau viscoélastique. Alors, si vous êtes un peu formel, presque tous les matériaux liquides sont viscoélastiques, parce qu'à temps très très court, ça se comporte toujours comme un solide, mais comme les temps caractéristiques sont 10-12 secondes pour un solide usuel, vous savez, vous n'êtes pas capable de faire une expérience de mécanique à 10-12 secondes, donc les liquides coulent vraiment. Si vous prenez des matériaux polymères, ces temps caractéristiques peuvent être des secondes, et puis on voit très bien le comportement solide et le comportement liquide. C'est ça qui crée les propriétés de déformation un peu inhabituelles et un peu contre-intuitives de tous ces systèmes polymères. Les tissus peuvent se comporter comme des matériaux viscoélastiques. Il y a un deuxième type de comportement auquel on peut penser, c'est ce qu'on appelle le comportement plastique. Le comportement plastique, c'est quelque chose qui est bien connu des gens qui font de la géophysique. C'est des matériaux qui, si vous appliquez une contrainte faible, se comportent comme un solide élastique. Et puis, il y a une contrainte seuil. Et au-delà de cette contrainte seuil, c'est-à-dire si vous appuyez trop fort ou cisaillez trop fort le matériau, il se met à couler. Donc il coule, mais il ne coule qu'au-delà d'une contrainte seuil. Donc c'est le cas des matériaux géophysiques, hein, à l'intérieur du manteau terrestre, les roches se mettent à couler parce qu'on dépasse des contraintes seuil, parce que les contraintes sont gigantesques. Il y a des matériaux polymères, plastiques, où les contraintes seuil sont très faibles, et où en appliquant une petite contrainte, on arrive à les faire couler. Voilà les idées qu'on peut avoir. Je vous ai dit qu'il y avait des comportements viscoélastiques. Les comportements plastiques sur les tissus, il semblerait, et je ne sais pas très bien pourquoi, mais on avait trouvé ça. Il y a des gens qui ont fait des simulations numériques plus précises que celles qu'on avait faites, mais il semblerait que dès qu'il y a de la division cellulaire, la contrainte seuil disparaît, ou la contrainte seuil est tellement faible qu'on n'arrive pas à la voir, et que donc un tissu dont on pourrait attendre qu'il ait un comportement plastique, en fait, se met à couler et devient un liquide avec une contrainte seuil qui est extrêmement basse. Donc voilà les deux approches que j'ai envie de mettre en avant pour les tissus. Donc ça, c'est ma première propriété donc sur la mécanique. Alors, je ne l'ai pas écrit. Hein. Le deuxième type de choses dont je voudrais parler, c'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Est-ce que, après y avoir un peu réfléchi, la façon dont je vais le faire, c'est un peu de façon historique. Donc j'ai appelé ça morphogénèse, forme et croissance. Peut-être la première personne qui s'est intéressée de façon quantitative à la morphogénèse, c'est un monsieur qui s'appelle Darcy Thompson. Alors Darcy Thompson, c'était un biologiste et mathématicien écossais. Il travaillait à Dundee, qui encore de nos jours est un grand centre pour la biologie et la biologie du développement. Et Darcy Thompson a écrit un livre qui est absolument remarquable, qui s'appelle « On Growth and Forms ». Alors j'ai noté l'époque où vivait Darcy Thompson, il est né en 1860 et il est mort en 1942. Ce livre est absolument étonnant. Ce à quoi s'intéresse Darcy Thompson, comme le dit le titre, hein, il s'intéresse à la croissance en biologie et aux formes en biologie. Et il procède beaucoup par analogie. Il fait des analogies avec les systèmes physiques qu'il connaît et il fait des analogies avec les formes qui sont obtenues par des transformations mathématiques sophistiquées. Ce qui est assez étonnant, c'est que il dit cette forme ressemble à celle-là. Il n'essaye pas trop de justifier ce qui est à la base de ces analogies-là. Et pourtant, il a introduit plein d'idées que de nos jours, on utilise encore. Donc c'est plutôt en partant de ces observations, en disant « Tiens, cette forme, elle est pareille que celle-là » ou « Elle est pareille que cette transformation mathématique qui me permet d'obtenir telle et telle chose. » Et puis, c'est comme ça qu'il est un peu remonté en arrière et qu'il a essayé de poser certains principes pour ce qui est la forme et la croissance des tissus. Un des grands credos que Darcy Thompson avait, c'est que les biologistes se sont trop focalisés sur l'évolution et ne se sont pas intéressés assez à la physique et à la physique et aux mathématiques. Je fais presque cette formule mienne. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui qu'ils se sont peut-être un peu trop intéressés à la génomique et qu'ils ne se sont pas intéressés à la physique et aux mathématiques. Ça ne veut pas dire que l'évolution n'est pas importante. On est tous d'accord que l'évolution joue un rôle essentiel. On est tous d'accord que la génomique joue un rôle essentiel. Mais je pense que la physique et les mathématiques jouent aussi un rôle qui est très, très important pour ces propriétés de morphogénèse. Alors, dans ce livre, il y a un chapitre, alors que dans la version que j'ai, c'est le chapitre 4, mais la version que j'ai, c'est une version abrégée, donc peut-être qu'il y a d'autres chapitres auxquels je n'ai pas eu droit. Donc le chapitre 4, qui s'appelle « The Form of Tissues and Cell Aggregates ». Donc c'est un chapitre où il discute les formes qu'il a observées en regardant des tissus et des petits agrégats cellulaires. Alors je ne vais pas... ça serait bien trop long à vous faire un résumé de tout ce que décrit Darcy Thompson dans ce livre-là, ou dans ce chapitre-là même, qui est assez long. Ce que je veux faire, c'est vous montrer quatre exemples que j'ai choisis un peu au hasard, ou que j'ai choisis parce qu'il y a des ans dont je pensais qu'ils seraient là et qui font des choses qui sont tout à fait en relation avec ce que dit Darcy Thompson. Il y en a plein d'autres, et il a une démarche assez cohérente. Je vous recommande la lecture de ce livre qui va d'observations comme ça à des choses mathématiques assez sophistiquées. Il discute des problèmes de mouillage qui sont assez compliqués. Par exemple, une chose qu'il discute assez en détail, c'est ce qu'on appelle des onduloïdes, qui sont des surfaces à courbure constante, mais qui sont pas, dont les deux courbures n'ont pas toujours le même signe. Il y a une description des onduloïdes qui est remarquablement simple et qui explique plein de questions de mouillage que des gens comme moi ont étudiées sans trop les comprendre, bien après Darcy Thompson. Alors, quels sont les quatre exemples que j'ai choisis ? Le premier, c'est ce qu'il appelle des partitions cellulaires. Donc c'est un peu la cellule en train de se diviser. Donc voilà les partitions cellulaires de Darcy Thompson. Il parle beaucoup de mouillage, il parle de tension de surface. Là, je vais rejoindre, je vais être obligé de vous avouer que j'ai fait ma thèse sur le mouillage. Mon directeur de thèse disait, de toute façon, les physiciens, ils savent faire qu'une chose, c'est vous parler de ce qu'ils ont fait pendant leur thèse. C'est promis, je ne vous parlerai plus trop de mouillage après, mais il s'avère que dans ce cas-là, c'est tout à fait approprié. Quand il voit ça, il parle de bulles de savon. Il dit, ça ressemble beaucoup à des bulles de savon. Il parle de films de savon aussi. Et donc, il dit, ça, finalement, c'est la même chose que des bulles de savon qu'on joindrait. Par exemple, il s'intéresse à l'état de la surface entre les deux bulles. Et il dit qu'elle n'est plate que si les deux cellules sont de même taille. Ça, c'est simplement si les deux cellules sont de même taille. Il est tout à fait au courant de la pression de Laplace. La pression est la même des deux côtés. Si la pression est la même des deux côtés, la surface est forcément plane. Et puis, si vous regardez de ce côté, et il dit c'est pareil pour des cellules. Si vous regardez, par exemple, une petite et une grande, la pression est plus grande dans la petite goutte. Et donc, la pression dans la petite goutte pousse l'interface, et l'interface est courbée vers la grande goutte. On peut imaginer que ces choses-là expliqueraient des divisions asymétriques ou des choses comme ça. Ça fait hurler certains biologistes, parce que c'est extrêmement simple et simpliste comme discussion, surtout qu'ils supposent, par exemple, que la tension est constante, et rien ne prouve que la tension d'une cellule va être constante. Ceci dit, qualitativement, moi, l'idée me paraît très bonne, et c'est le genre d'idée auquel j'ai envie d'adhérer totalement. On n'est pas très loin de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ma division cellulaire. Quand on a fait des calculs là-dessus avec Hervé Turlier, il a regardé ce qui se passait quand on avait des divisions qui n'étaient pas symétriques. Et en gros, il y a une tension à la cellule, donc on a des formes qui ressemblent terriblement à celle-là. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est ce deuxième dessin. Alors, c'est les dessins du livre de Darcy Thompson, que j'ai photocopié avec un peu de mal d'ailleurs. Ça, c'est l'aile d'une mouche qu'il appelle dragonfly, donc que j'ai traduit par la mouche dragon. Je ne sais pas si ça s'appelle la mouche dragon en français, mais ce n'est pas très important. Et puis, comment ? C'est les libellules, la mouche dragon. Merci Jean-François. Il y a des gens cultivés, c'est bien. Donc, il regarde l'arrangement des cellules. La raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est que dans le reste du cours, je vais vous montrer des choses sur le développement de la mouche. Mais alors, quand les biologistes discutent du développement de la mouche, c'est la drosophile, qui est la mouche à vinaigre, cette fois, ça, je le sais. Et on voit des arrangements de cellules, et des arrangements de cellules qui ne sont pas très différents de ça. Alors, il a la même idée que celle qu'il avait ici, que ce qui compte, c'est les tensions. Et donc, il dit, si vous avez deux cellules qui se rejoignent, comme en gros, elles doivent avoir la même tension, de façon à ce que les forces soient équilibrées, et ça, c'est ce que connaissent toutes les gens qui font du mouillage, la somme des trois vecteurs qui sont les tensions doivent être égales à 0, et si les tensions sont égales, les angles doivent être égaux à 2π sur 3. Et donc il regarde ici au milieu, c'est pas exactement 2π sur 3, mais c'est jamais très mal. Et puis il regarde ce qui se passe au bord, ou ce qui se passe quand on rencontre une veine de la mouche. Dans ce cas-là, les cellules s'appuient sur un corps qui est différent, et il regarde l'angle. Et comme le prévoit l'équilibre des forces dans ce cas-là, la veine n'est pas déformable, et donc on a deux tensions qui tirent l'une sur l'autre, et dans ce cas-là, l'angle doit être égal à 90 degrés, et on voit que partout au bord, les angles sont égaux à 90 degrés. Ça aussi, c'est extrêmement simple, mais ça a toutes les raisons d'être vrai, et on voit bien qu'à partir d'arguments comme ça, on arrive à expliquer une partie de l'arrangement des cellules dans la mouche. Alors ça, c'est le troisième qui est là. C'est quelque chose qui est pour Hervé Turlier. Je ne sais pas où il est assis, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Ça, c'est des arrosements de quatre bulles de savon. Et ce que dit Darcy Thompson, c'est que cet arrangement-là est instable. Ce vertex qui est là, qui a quatre lignes, va se séparer en deux. On va faire deux vertex à trois branches. Alors lui, il regardait ça, et il a des résultats expérimentaux avec une algue qui s'appelle Protococcus. Ça ressemble pas mal aux études que fait Hervé Turlier avec Jean-Léon Maître. Alors ce que regardent Hervé Turlier et Jean-Léon Maître, c'est des embryons de souris. Au niveau, ils n'ont que quatre cellules, mais le dessin n'est pas très différent de ce qu'on peut faire là. J'en ai mis un quatrième, qui est totalement différent, mais là aussi, il avait eu l'idée. L'idée, c'est de faire un système artificiel qui se comporterait comme un tissu. Alors évidemment, après tout ce que je vous ai dit, qui regardait des bulles de savon, qui regardait des films de savon, ce qu'il fait, c'est des gouttes. Et ça, c'est des gouttes de chlorure de sodium où la goutte est colorée. Donc c'est une espèce d'émulsion. Et vous voyez qu'on a des arrangements ici qui sont des polygones et qui ressemblent beaucoup à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors il y a encore des gens qui font ça. Hein. Il y a des gens, moi, la personne que je connais, elle est à New York, elle s'appelle Jasna Brouillic. Et Jasna Brouillic, elle prend des émulsions et elle essaye d'expliquer le comportement des tissus en étudiant des propriétés mécaniques d'émulsions. Des émulsions toutes simples, c'est des émulsions d'huile dans l'eau, dans son cas, en choisissant bien l'huile et en choisissant bien l'eau. Vous voyez en tout cas que ça ressemble beaucoup. Alors, par contre, dans ce cas-là, il n'y a pas d'équivalent de la division cellulaire, de la mort cellulaire. Il y a des réarrangements, mais il avait quand même eu l'idée que finalement, ce n'était pas très différent de tous ces systèmes fluides qui sont là. Voilà ce que je voulais dire sur Darcy Thompson. Alors, je ne veux pas vous laisser avec l'idée qu'on n'a pas évolué depuis Darcy Thompson. Une chose quand même qui me plaît bien, c'est que c'est assez cohérent avec mon idée de dire que c'est un peu comme la matière molle. Là, on a des systèmes qui ressemblent beaucoup à de la matière molle. Je ne prétends pas que ces genres d'approche expliquent tout, mais je prétends que pour des effets un peu grossiers, c'est suffisant de faire des descriptions comme ça, et il n'y a pas du tout de raison d'aller chercher des descriptions plus sophistiquées. Donc, je vais vous montrer un autre exemple de morphogénèse, qui est ce qu'on appelle la girification du cerveau. Alors, je vais vous montrer mon image suivante, qui est un peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup de dessins dessus. Le vrai problème biologique, c'est celui-là, c'est de regarder le cerveau de fœtus après la gestation. Donc, les premières images, ça c'est 22 ou 23 semaines après la gestation, et vous voyez que le cerveau est lisse. Et puis, quand on regarde le développement du cerveau, il y a des tas de circonvolutions qui apparaissent au fur et à mesure, et quand vous regardez le cerveau après 36 ou 37 semaines, il n'a pas grand-chose à voir avec ce cerveau lisse qu'on avait au départ. L'idée de ces gens, alors c'est un groupe qui est à Harvard, et le premier auteur s'appelle Talinen. Alors je ne l'ai pas dit au début, je ferai comme l'année dernière, je mettrai mes notes sur le site du Collège de France et j'ai fait attention d'écrire les références, ça m'évite de les écrire au tableau et de faire des tas de fautes en les écrivant au tableau. Ce qu'ont fait ces gens-là, c'est qu'ils ont imagé à trois dimensions ce cerveau-là, et ils ont fait de l'impression 3D. Donc voilà leur image d'impression 3D d'un cerveau de nourrisson, juste à cette date-là, à 22 semaines de gestation. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une fine couche. Alors, c'est fait dans un polymère, c'est un gel. Je n'ai absolument pas noté la composition chimique. Mais ils ont mis à la surface de ce cerveau-là, donc c'est exactement reconstruit à 3D, le cerveau initial du nourrisson, dans la période où la surface du cerveau est parfaitement lisse. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une couche mince d'un autre gel à la surface de ce cerveau. Alors, ils appellent ça un simulacre de cerveau. C'est comme ça qu'ils le dénomment dans leur article. Ils ont mis une couche d'un autre gel. Et cet autre gel peut gonfler quand on le met dans un solvant, alors que le gel interne ne gonfle pas. Donc, il plancha dans le cerveau. Le gel externe gonfle. Et comme le gel externe adhère sur la surface intérieure, il veut augmenter sa surface, et la seule façon qu'il a de faire, c'est de faire des circonvolutions, comme le cerveau fait des circonvolutions. Donc voilà, ici, le gel lisse, et puis au fur et à mesure du gonflement, voilà ce qu'on obtient petit à petit. Au moins à l'œil, ça ressemble pas mal aux circonvolutions du cerveau. Ils ont été plus loin, ils ont fait des simulations numériques. Et ça, cette troisième ligne ici, c'est des simulations numériques qui correspondraient à ça ou à ça, et vous avez les semaines auxquelles ça correspond. Il y a un peu plusieurs façons de voir ça. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que ça fait ces circonvolutions? C'est un effet bilame, hein, on a deux couches de gel, il y en a une qui se dilate plus que l'autre, et quand on a un bilame, on sait qu'on crée des surfaces qui sont avec des circonvolutions comme ça. Donc c'est ça qui crée l'effet. Évidemment, il n'y a pas de gonflement dans le cerveau ou de choses comme ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une division différentielle entre la matière grise et la matière blanche du cerveau. Et ils attribuent à la différence de division entre matière grise et matière blanche l'effet de croissance et de circonvolution de ce cerveau-là. Après, ils ont défini des indices qui leur permettent de comparer les formes pour voir quand est-ce que les circonvolutions ressemblent ou sont différentes. Je ne vais pas du tout vous emmener dans ces choses-là, mais ils arrivent, en ajustant bien leurs paramètres, à reproduire exactement la circonvolution qu'ils sont en train d'étudier. Si vous prenez ça de côté physique des polymères, c'est des effets qui sont connus. On sait très bien que quand on fait pousser, gonfler un gel sur une surface, on crée des surfaces qui sont ondulées. Il y a un collègue japonais qui s'appelle Toyoshi Tanaka, qui dans les années 80 a étudié ça super en détail. Il a des modèles mathématiques extrêmement précis. Les modèles mathématiques décrivent parfaitement les expériences. Malheureusement, Toyoshi Tanaka est disparu très très jeune. Deux remarques. La première, c'est que c'est parfaitement dans l'esprit de Darcy Thompson, c'est-à-dire qu'on utilise des analogies avec des systèmes qui sont pareils, des systèmes qui sont des matériaux mous. Là aussi, la matière molle permet de reproduire un certain nombre de comportements, dans ce cas-là, du cerveau. Alors, on peut rendre la chose très, très quantitative. On a une collègue à l'ENS, Martine Denamar, qui a fait des calculs très, très précis sur les gonflements différentiels dans les gels. Et c'est des choses qu'on arrive, au moins pour le gonflement, à expliquer de façon très propre et très quantitative. Il faut faire attention qu'on n'explique pas toutes les propriétés du cerveau avec ça. Je ne crois absolument pas que votre cerveau, c'est un gel mou, parce que autrement, je pense que vous ne seriez pas là. Donc il y a un certain nombre de propriétés qu'on peut appréhender comme ça. Il y a des propriétés qui sont infiniment plus sophistiquées que ça et auxquelles on ne comprend encore rien de nos jours. Enfin, moi, rien. Et les spécialistes, un petit peu quand même, mais on est très loin de comprendre le fonctionnement du cerveau quand on a fait ça. On a juste expliqué ce problème de morphogénèse. Et pour ce problème-là, je pense que l'explication est tout à fait appropriée. Alors, j'ai un peu tourné autour du pot depuis que j'ai commencé. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous dire un peu quel tissu je vais discuter dans ce cours. Quels sont les tissus que les physiciens aiment bien discuter? Alors pour moi, il y en a trois. Donc c'est ce que je vais appeler des tissus modèles. Avant de faire ça, peut-être, pourquoi est-ce que je m'intéresse à la croissance des tissus? La raison principale, c'est que je suis physicien, certes, mais je fais ma recherche à l'Institut Curie. Et l'Institut Curie, c'est un centre de recherche sur le cancer. Et donc, étant à l'Institut Curie, on s'est intéressé à des tas de questions biologiques qui, de près ou de loin, étaient reliées au cancer. Et à un moment, on s'est dit quand même, la propriété principale quand même des cancers, c'est qu'il y a des tumeurs, donc on devrait s'intéresser aux tissus. Surtout que l'Institut Curie a une banque de tumeurs qui est absolument gigantesque. Et donc, ils ont des choses qu'on n'a pas encore fait nous, mais que des gens ont étudiées, auxquelles on pourrait comparer directement sur des tissus vivants. Donc ça, c'est une première motivation, c'est la biologie du cancer. La deuxième motivation, c'est la biologie du développement. Ça, c'est le développement des animaux. C'est toute une branche de la biologie maintenant qui s'intéresse à la biologie de développement. D'ailleurs, un des grands credos du directeur de la recherche de l'Institut Curie, c'est que ce qu'on sait sur le développement doit être utile pour étudier le cancer, parce qu'on a dans les deux cas des tissus qui sont en croissance. Il y a des similitudes, il y a des choses qui sont différentes comme toujours, mais c'est des domaines qui sont assez reliés. Donc voilà un peu mes deux motivations. Maintenant, il y a en gros trois types de tissus dont j'ai envie de parler. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle des multisphéroïdes cellulaires. Alors, le mieux, c'est que je vous montre une image de multisphéroïdes cellulaires. Ça, c'est des agrégats de cellules. C'est des agrégats à trois dimensions de cellules. Vous en avez toute une série ici. Ce n'est pas tant les agrégats qui sont différents que la manière de les imager. Ça a été fait par ce monsieur allemand qui s'appelle Stelzer, qui à l'époque était à Heidelberg, à l'EMBL. Vous voyez les cellules à l'intérieur de ces agrégats. Typiquement, l'agrégat fait entre 500 microns et 800 microns, quelque chose comme ça. Donc on part d'un tout petit agrégat, on laisse les cellules se diviser, puis on obtient des gros agrégats comme ça, qui est ce qu'on appelle les multisphéroïdes cellulaires. Au départ, les gens se sont intéressés à ça. Alors, c'est facile à faire. c'est facile à faire avec des cellules cancéreuses. Avec des cellules non cancéreuses, c'est difficile à faire, parce que les cellules ont tendance à mourir par un phénomène qui s'appelle l'anoïkis. Elles aiment bien être à deux dimensions, et elles ont du mal à passer à trois dimensions. Donc les gens savent le faire, mais ça devient très très technique. Et pour les physiciens, c'est un peu dur. Donc toutes les choses qui ont été faites autour de moi sur ces agrégats-là, en particulier par Fabien Montel et Morgane Delarue, sont des expériences avec des tissus cancéreux. Il y en a plusieurs, hein, c'est des lignées de cellules cancéreuses. Il y en a plusieurs, et en gros, les propriétés se ressemblent toujours les unes aux autres. Ces agrégats-là, ils ont été utilisés pendant très longtemps pour tester des drogues contre le cancer. Et on a considéré pendant très longtemps, je vous montrerai dans deux minutes quelque chose qui est considéré comme encore plus pertinent pour étudier les drogues contre le cancer. Mais pendant très longtemps, c'est ces agrégats-là qui étaient considérés comme les bons objets à étudier pour étudier l'effet des drogues contre le cancer. Alors, je n'ai pas résisté à vous montrer cette image-là. Alors, ça, c'est un groupe de physique à l'Institut Curie, Françoise Brochard. Vous avez un agrégat multicellulaire qui est là. Et ce que fait Françoise Brochard, c'est que... Alors, ça, il y a des manips qui ont été faites par Karine Gréborkian. Elle approche une micropipette, elle aspire l'agrégat avec une micropipette, et puis elle tire. Donc, elle diminue la pression et elle aspire le sphéroïde à l'intérieur de la pipette. Vous voyez une langue de cellules qui rentre à l'intérieur. Ce n'est pas comme un fluide. Si vous faites ça avec un fluide, il y a une pression seuil. Et puis, une fois que vous avez déplacé la pression de la place, vous avalez tout parce que le fluide envahit. Ici, ça s'arrête. Et à chaque point, il y a un état d'équilibre. C'est-à-dire que la tension... Donc, si on dit que c'est une sphère, on soupçonne qu'il y a une tension de surface quelque part. Et ça veut dire que la tension de surface n'est pas constante, parce qu'autrement, il y aurait un seuil d'invasion et tout serait envahi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder la cinétique d'avancée de la langue. Alors, je peux vous le remettre. Regarder la cinétique d'avancée de la langue à l'intérieur du fluide, et puis regarder quel modèle mécanique on connaît pour ça. Un modèle de fluide viscoélastique dont je parlais tout à l'heure reproduit très très bien ces expériences-là. Donc là, on est un peu dans un cas extrême, mais ils n'ont jamais prétendu autre chose, un physicien qui s'amuse avec un matériau biologique. Ce n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'application, qu'on n'apprenne pas des choses sur le comportement des tumeurs en faisant des choses comme ça. Donc voilà le premier type de tissu qui pour moi est un tissu modèle. Le deuxième, c'est les tissus épithéliaux de la drosophile. Donc la drosophile, c'est la mouche à vinaigre, c'est un organisme modèle pour les biologiques qui savent absolument tout ce qu'on peut désirer savoir sur la drosophile. Ce que je vais vous montrer, c'est le développement de la drosophile, parce qu'ils regardent ces tissus au cours du développement de la drosophile. Donc on part d'un œuf de drosophile ici, il y a un cycle de développement de la drosophile. Donc on part d'un œuf de drosophile. Après, les noyaux à l'intérieur de l'œuf se divisent, mais il n'y a pas de formation de cellules. On forme quelque chose qu'on appelle un syntytium, où il y a plusieurs noyaux à l'intérieur de du même corps. Après, il y a une cellularisation qui amène à l'embryon, et on fait une larve. Donc les étapes que je vais vous montrer dans la suite du cours, c'est soit à cet état de larve ici, ou à l'état de poupe, qui est l'état final de la larve. Puis après, il y a la métamorphose et on arrive à l'animal complet avec tous les organes que vous voyez sur les mousses. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle les disques imaginaux, soit à l'état de poupe ici, soit dans les organes développés ici. Les cellules sont prédifférenciées, ça veut dire que dans l'état de la larve ou dans l'état de poupe, il y a déjà des régions qui sont identifiées à partir desquelles vont croître tous ces organes. Ces tissus-là sont des tissus épithéliaux, ça veut dire que c'est des monocouches de cellules, et c'est à partir de ces monocouches de cellules que vont croître les organes. Donc ils sont indiqués ici, hein, il y a les rouges par exemple, c'est pour les yeux ou pour les antennes. Ce que je vais discuter beaucoup dans la suite, c'est les disques imaginaux, donc ces régions qui vont devenir les ailes de la drosophile. Donc, il y en a deux ici, hein. Ça c'est les disques imaginaux qui vont faire les ailes de la drosophile. Donc il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur ce système-là. Il y a des méthodes d'imagerie extrêmement sophistiquées. Il y a de la biologie très sophistiquée qui ont été faites là-dessus. Et comme pour les sphéroïdes multicellulaires, c'est des systèmes pour lesquels on a des données quantitatives extrêmement importantes et donc où le physicien peut essayer de comparer la physique avec ce qui a été mesuré. Donc voilà le deuxième type de tissus que je vais discuter. Dans les cours suivants, je vais beaucoup discuter des disques imaginaux de l'aile de la drosophile. Alors, j'en ai un troisième, qui est l'intestin. Et j'ai mis le nom ici de M. Clevers, qui est le biologiste qui a beaucoup développé la biologie de l'intestin dans les 10 dernières années, qui est à Rotterdam. Si vous regardez, donc c'est l'intestin humain, cette fois-là. Pourquoi on s'intéresse à l'intestin? Ce que je vous ai dit, c'est ce qui m'intéressait, c'était les tissus où il y a beaucoup de divisions cellulaires. Il s'avère que l'intestin est votre organe qui se renouvelle le plus vite. En 5 jours, par division et mort cellulaire, vous avez renouvelé toutes les cellules de votre intestin. Donc c'est un organisme où la division cellulaire et la mort cellulaire sont extrêmement importantes. Une deuxième propriété, c'est ce qui se passe quand vous regardez la surface interne de l'intestin. Donc voilà une image de la surface interne de l'intestin. Vous voyez qu'elle n'est pas plate. Il y a des doigts qui apparaissent et qui émergent de la surface de l'intestin. Alors ces doigts, ils font quelque chose comme 300 microns de long. Après, si comme moi, vous aviez regardé cette image plus en détail, alors j'en ai coupé un bout, mais faites-moi confiance, ça fait un réseau parfait. Il s'avère que dans ce cas-là, et ça c'est le côlon, dans le cas du côlon, ses doigts font un réseau carré à peu près parfait. Et puis si vous regardez le gros intestin, le réseau devient hexagonal. Donc il y a une transition entre le côlon et le gros... Non, c'est le petit intestin où le réseau est carré, et dans le côlon, le réseau devient hexagonal. Si vous faites une coupe, donc il y a des doigts qui sont... Si on prend la surface moyenne, il y a des doigts qui pointent vers l'intérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle des trous, qui sont des cryptes, donc que les gens appellent des cryptes, qui rentrent à l'intérieur du muscle de l'intestin. Donc les cryptes, elles sont, il y en a une là. Si on en prend quatre ici, au cœur de ces quatre-là, il y a un trou vers l'intérieur, et ça, c'est ce qu'on appelle les cryptes. Il y a des choses plus sophistiquées derrière. À l'intestin, il doit pouvoir se contracter et éjecter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a des muscles qui permettent à l'intestin de se contracter. Il y a un mouvement oscillatoire de l'intestin comme ça qui fait sortir le matériau qu'il y a à l'intérieur de l'intestin. Voilà un schéma, alors que j'ai mis là parce que je vais en avoir besoin pour l'image d'après. Ça, c'est une crypte. Donc c'est le trou qui est ici. Et puis, cette protrusion, ce doigt, ça s'appelle des villi. Donc voilà une coupe d'un villi. Vous voyez qu'il y a une monocouche de cellules autour. Ça, c'est un tissu épithélial qui borde ces villi-là. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle le stroma. Le stroma, c'est de la matrice extracellulaire avec quelques cellules. Donc c'est un tissu conjonctif. Donc voilà un schéma de la crypte ici. Ce que vous montre ce dessin, c'est comment apparaît un cancer de l'intestin. Le cancer apparaît au milieu de la crypte par branchement latéral. Donc il y a des divisions qui se font supplémentaires et on branche de ce côté-là et puis on fait apparaître un morceau de tissu cancéreux de ce côté-là. Donc la première raison pour laquelle... Bon, d'abord, on était un peu fasciné par cette histoire de réseau qui était périodique et de crypte et de villi. Pour à peu près tous les animaux, la taille des cryptes et des villi est la même, à la fois la période et la hauteur. Donc ça nous fascinait assez. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de données quantitatives sur l'intestin aussi. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, c'est un peu un tissu modèle. Et puis, ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que M. Clevers a réussi à faire des modèles in vitro de l'intestin. Alors, la façon dont il fait ça, et c'est ce que je vais vous expliquer après, dans l'intestin, il y a des cellules souches qui sont au bas des cryptes. Ces cellules souches se divisent et puis renouvellent la structure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce que fait Clevers, c'est qu'il met en solution des cellules souches isolées avec simplement un autre type de cellules, qui sont des cellules qui aident à la division, il appelle des Paneth cells. Et à partir de ces cellules-là, il fait des structures qui ressemblent à ça. Ça fait des espèces de sphères qui sont vides. L'épithélium de l'intestin va tout autour. Et puis, ça se branche et ça fait des choses qui ressemblent aux villi. Donc ce n'est pas tout à fait l'intestin, mais c'est des structures branchées avec des structures qui ressemblent au villi de ce côté-là. Donc il reproduit ces structures qu'il appelle des organoïdes, qui ont toutes les propriétés de l'intestin. En particulier, il y a tous les types de cellules qui sont dans l'intestin, qui sont obtenues par différenciation des cellules souches qu'il a mises au départ. Alors au début, il était le seul à faire ça. Avec deux cellules, au départ, c'est difficile à faire. Ce que font les gens à l'Institut Curie, c'est qu'ils prennent une crypte, ils le mettent en solution et puis ils obtiennent des objets comme ça. Bon, ça, c'est un peu une idéalisation. Hein. vous avez l'organoïde ici, puis vous avez les structures en crypte qui sont là. Il n'y a pas de villi. Le villi est plat ici, mais il y a des endroits ou des organismes pour lesquels le villi est assez plat. Donc ce n'est pas très, très gênant de ne pas avoir de villi. Mais ça, c'est considéré comme un matériau sur lequel on peut étudier les cellules de l'intestin presque dans leurs conditions naturelles. Alors, je vais vous montrer que ça existe. Hein, voilà un organoïde. Ce qui est marqué en vert, c'est le fond des cryptes. Donc, c'est les cellules qui sont au fond des cryptes qui sont les cellules souches. Donc, on voit qu'il y a des cryptes qui se divisent. Tout ça, c'est des cryptes qui sont formés autour de la sphère qui est ici. Alors, c'est moins propre que mon dessin un peu caricatural, mais on a cette structure-là. Et les gens arrivent maintenant à étudier les propriétés des cellules de l'intestin sur ces organoïdes. Ça a été les premiers systèmes sur lesquels ont été faits les organoïdes. Maintenant, Clevers et bien d'autres gens ont étudié des organoïdes avec des tas de tissus. Et c'est devenu le moyen de choix pour étudier le développement des cancers et pour étudier des drogues anticancéreuses. Donc voilà le troisième système que nous, qu'on a envie d'étudier et dont je vous parlerai au cours du cours. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces tissus modèles. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous parler des deux derniers sujets dont je vous ai parlé, qui sont la différenciation cellulaire et la régulation de la croissance. Alors je ne vais pas être très extensif là-dessus, mais je vais y revenir un peu. C'est deuxièmement, régulation de la croissance. Alors d'abord, je vais parler d'hétérogénéité des cellules souches et de différenciation. Peut-être le premier point, c'est que la plupart des tissus sont hétérogènes. Ce que j'entends par là, c'est que les tissus sont formés de plusieurs types cellulaires. Si vous considérez les cellules humaines, il y a 230, je ne sais plus combien, types cellulaires qui sont identifiés dans certains tissus. Et dans des tas de tissus, il y a plusieurs types cellulaires qui sont présents. Donc quand je vous disais, la cellule c'est une brique, et puis avec cette brique je fais un tissu, en fait il y a plusieurs briques. En gros, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a deux exemples qui sont particulièrement marquants pour ça. Le premier exemple, c'est le cas d'une tumeur. Ce que vous savez tous, c'est que dans une tumeur, il y a des mutations, et qu'à cause des mutations, on passe à des types cellulaires qui sont différents. Et donc les tumeurs sont extrêmement hétérogènes, et plus elles sont anciennes, les tumeurs primaires sont extrêmement hétérogènes. Ça veut dire que pour certaines propriétés, je ne peux absolument pas décrire le tissu en considérant qu'il y a un seul type de cellule. Aux propriétés globales que je vous ai données au début, il faut que j'en rajoute une autre, qu'il y a des types cellulaires qui sont différents. Il faudra étudier des tissus qui sont un peu hétérogènes. Je vais revenir un peu, assez brièvement, sur mon dessin de l'intestin. Donc voilà les cryptes de l'intestin. Il s'avère que dans l'intestin, il y a plusieurs types de cellules. Il y a trois types de cellules. Il y a des cellules souches. Donc c'est des cellules souches intestinales. Il y a des cellules progénitrices et il y a des cellules totalement différenciées. Alors, il y a eu des débats gigantesques sur où étaient les cellules souches. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En gros, les cellules souches, elles sont au fond de la crypte ici. Alors, les cellules souches, elles doivent faire deux choses. Elles doivent se diviser. Et elles doivent se diviser parce qu'elles doivent reproduire, maintenir le pool de cellules souches. Si les cellules souches disparaissent, la structure va disparaître. Mais elles doivent aussi se différencier, c'est-à-dire changer de type cellulaire, et elles vont changer de type cellulaire pour devenir des cellules progénitrices. Donc au fond de la crypte ici, il y a des cellules souches. Il y a un certain nombre de cellules souches qui se différencient. Elles vont monter vers le haut de la crypte ici, parce que quand les cellules se divident, elles vont pousser les autres cellules qui sont devant. Et puis ici, là où apparaissent les tuneurs, c'est des cellules progénitrices. Les cellules progénitrices elles-mêmes, elles se redivisent. Elles se divisent encore plus vite que les cellules souches, et puis elles se différencient et elles produisent des cellules totalement différenciées. Donc si vous allez en haut du villi, il n'y a plus que les cellules totalement différenciées et ces cellules-là meurent. Donc on passe des cellules souches, on les différencie en cellules progénitrices. Les cellules progénitrices sont poussées au milieu de la structure. Et puis en haut de la structure, en haut du villi, il n'y a plus que ces cellules totalement différenciées. Et ces cellules totalement différenciées, c'est elles qui meurent au sommet de la couche. Donc on fabrique des cellules en bas et elles vont mourir en haut. Il y a une vitesse des cellules que les gens ont mesurée. Toutes ces choses-là sont parfaitement étudiées et parfaitement contrôlées. Je vais juste vous faire un espèce de diagramme sur une des façons dont ça pourrait se passer. Donc je pars d'une cellule souche et puis cette cellule souche se divise. Alors il y a deux solutions. Soit elle se divise de façon symétrique et elle fait deux cellules souches, soit elle se divise de façon asymétrique et elle fait une cellule souche et une cellule progénitrice. Je vais vous d'écrire le scénario où elle se divise de façon symétrique. Donc elle va produire une cellule souche et puis une cellule progénitrice. Il faut qu'il y ait au moins une cellule souche, parce que s'il n'y en a pas une, les cellules souches disparaissent petit à petit, et il faut que les cellules souches restent. Ces cellules-là, elles se redivisent. Pareil, je suppose que la division est symétrique. Donc une cellule souche donne deux cellules souches. Celle-là va se différencier en cellule progénitrice. La cellule progénitrice, elle se divise en deux cellules progénitrices. Elles peuvent se différencier, et ça donne des cellules totalement différenciées. Ça veut dire qu'il y a des populations de cellules différentes. Si vous connaissez les taux auxquels arrivent toutes ces transformations-là, la division des cellules souches, la différenciation des cellules souches en cellules progénitrices, la division des cellules progénitrices et la différenciation des cellules progénitrices en cellules totalement différenciées, vous pouvez regarder l'équilibre des populations à l'intérieur de l'intestin. Alors, il y a une dernière chose que je n'ai pas écrite, c'est que celle-là, elle meurt. Donc, il y a un équilibre qui se fait, un équilibre homéostatique, où il y a une fraction des cellules qui sont des cellules souches, une fraction des cellules qui sont des cellules progénitrices et une fraction des cellules qui sont des cellules totalement différenciées. Ça va plus loin que ça, parce que ici, je ne décris pas du tout ce qui se passe spatialement le long de la crypte, je vous décris les populations globales. Je vous ai dit que la cellule souche était en bas. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en bas? Probablement parce qu'il y a un signal chimique qui force la cellule souche à être en bas, ou alors un signal physique. En bas, la courbure est dans ce sens-là. En haut, la courbure est dans ce sens-là. C'est peut-être plus facile de se diviser pour les cellules souches quand la courbure est dans le bon sens. Donc les cellules souches, elles sont au fond de la crypte. Les cellules progénitrices, elles sont dans la région intermédiaire. Et les cellules totalement différenciées, elles sont en haut. Donc ça veut dire qu'il y a des régions où il y a un type spécifique de cellules. Ça, c'est ce que les gens appellent des niches. Il y a une niche pour les cellules souches qui est tout en bas. Il y a une niche pour les cellules progénitrices qui est au milieu. Et puis il y a une niche pour les cellules totalement différenciées. Donc, voilà un exemple où les différents types de cellules vont jouer un rôle. Je ne vais pas en dire plus. Je serai amené à reparler dans un des cours suivants de la différenciation des cellules. Et l'exemple que je prendrai, bien sûr, c'est l'intestin. Ce dont je vais vous parler, pour finir, c'est la régulation chimique.
Instabilité de Turing.
Mon premier commentaire, c'est que la plupart des processus cellulaires sont hautement régulés. Alors la taille des tissus est régulée, par exemple. La division cellulaire est régulée. La mort cellulaire est régulée aussi. Alors la mort cellulaire dont je vais parler, et ça va être le cas là, mais ça va être le cas dans presque toute la suite du cours, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Dans une cellule saine, la mort cellulaire est régulée et il faut absolument que les cellules meurent. Un des problèmes de à peu près tous les cancers, c'est la dérégulation de la mort cellulaire. La mort cellulaire ne se produit plus et il y a une prolifération de cellules qui est due à la dérégulation de la mort cellulaire. Il y a une protéine qui est extrêmement connue et qui apparaît dans presque tous les cancers qui, quand elle est mutée, produit cette dérégulation qui s'appelle P53. Donc, quand il y a des mutations de P53, ce que ça fait, c'est qu'on bloque on supprime la régulation de l'apoptose et ça crée de la prolifération. L'arrangement des cellules les unes par rapport aux autres peut être régulé aussi, le patterning des cellules. Je vais arrêter ma liste là, mais à peu près tous les processus cellulaires auxquels vous pouvez penser sont régulés et sont contrôlés. Le point que je veux faire, c'est qu'il y a en gros deux mécanismes pour réguler les processus cellulaires. Il y a un mécanisme chimique, et ça veut dire que c'est un réseau de réactions chimiques qui produit des molécules qui elles-mêmes vont modifier la transcription ou la traduction de protéines. Alors, c'est ce qu'en anglais on appelle les pathways. Si vous ouvrez un livre sur le cancer, ils vous donneront tous les pathways qui sont importants dans la dérégulation qui se produit dans les tumeurs. Ce n'est pas le seul mécanisme de régulation. Il y en a un sur lequel je vais insister beaucoup dans le cours, qui est la régulation mécanique. Ce que j'entends par là, c'est que pour la régulation chimique, les paramètres de la cellule dépendent de certaines molécules, de morphogènes par exemple, de la concentration de ces molécules-là. Dans la régulation mécanique, les paramètres des cellules dépendent des contraintes mécaniques locales. Les deux sont importants, et parfois les deux sont importants pour le même mécanisme. Celui-là a été très étudié par les biologistes. Maintenant, à peu près tout le monde est convaincu qu'il y a de la régulation mécanique. Il y a par exemple de la régulation mécanique de la division cellulaire. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et moi, j'insisterai plutôt sur celui-là. Alors, ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais vous parler un peu de l'article qui a un peu fondé tous ces mécanismes de régulation, qui est l'article de Turing. Donc, c'est un article de 1952. Si vous voulez lire un article génial, lisez cet article-là. C'est un article de mathématiques. Ceci dit, il ne pousse pas les mathématiques trop loin, il explique tout. Il explique même comment on résout les équations différentielles linéaires du deuxième ordre. Faites pas ça dans vos articles, parce que vous n'arriverez jamais à les publier, mais quand ça s'appelle Alan Turing, on peut se permettre de faire des choses comme ça. C'est un mathématicien absolument génial, hein, qui n'a pas simplement fait des travaux dans ce domaine de la biologie et des structures spatiales en biologie. Évidemment, c'est un des fondateurs de l'informatique, par exemple. Vous avez peut-être vu ce film qui a été fait sur lui il y a quelques années. Le livre sur lequel est basé le film est un peu épais, mais absolument fascinant. C'est le genre de livre que moi, je prends au début, puis après, je n'ai plus rien à faire tant que je n'ai pas fini le livre. Regardez-le, et puis regardez l'article original, c'est magnifique. C'est des mathématiques simples, il y a des conclusions extrêmement claires, et en plus, ça explique plein de manips, et depuis 1952, quand quelqu'un parle de patterning, ou d'arrangement spatial de cellules, ou de structure spatiale de cellules, il réfère toujours à l'instabilité de Turing. Donc, ce que voulait faire Turing, c'est expliquer que dans un certain nombre de cas, il y a une structuration des cellules, et il y a une structuration qui est périodique, mais périodique avec une période qui ne dépend pas de la taille de l'organe qu'on regarde. Donc c'est des structurations périodiques avec une taille intrinsèque. Alors ce que dit Turing, c'est que pour arriver à contrôler une structure périodique, il suffit de deux molécules, une qu'il appelle l'activateur et l'autre qu'il appelle l'inhibiteur. Je vais appeler A la concentration en activateur, ça c'est le nombre de molécules d'activateur par unité de volume, et puis je vais appeler I l'inhibiteur. Alors, je vais vous faire un petit dessin qu'on trouve maintenant dans tous les livres de biologie des systèmes, qu'est-ce que ça veut dire un activateur et un inhibiteur. Alors, j'ai ces deux molécules, l'activateur A. Alors l'activateur, il active la production d'inhibiteurs. Ça veut dire que plus il y a d'activateurs, plus il catalyse la production d'inhibiteurs. Alors ce que notent les gens, c'est une note avec une flèche. Ça veut dire que l'activateur aide à la production d'inhibiteurs. Mais l'activateur, il aide aussi à la production d'activateurs. Donc il active sa propre production. Donc il y a de l'auto. Donc l'activateur, il augmente la concentration en inhibiteur, il augmente la concentration en activateur. L'inhibiteur, il ne fait qu'une chose, c'est qu'il inhibe l'activateur, donc il diminue la concentration en inhibiteur, en activateur. Donc celui-là, il inhibe la concentration en activateur. Donc ça, c'est la base du mécanisme de Turing. Il n'y a pas plus que ça. Comme je vous disais, dans l'article, il n'y a pratiquement que des équations différentielles linéaires à coefficients constants que tout le monde peut comprendre. Alors je vais vous écrire les équations, puis je m'arrêterai là. Et elles sont extrêmement simples. Et la semaine prochaine, je vous dirai comment ça marche et ce que ça fait. Donc l'activateur, il a une concentration A. Ce qu'écrit Turing, c'est dA sur dt. Alors l'activateur, il diffuse. Donc il a un coefficient de diffusion. dA sur dt, c'est d, le laplacien de A. Ça, c'est la diffusion classique. Et puis, il y a des réactions chimiques. Il y a des réactions chimiques qui produisent de l'activateur ou qui inhibent la production d'activateurs. Ça, c'est une fonction non linéaire. Et en gros, on n'a pas besoin de dire ce qu'est cette fonction. On sait qu'elle est non linéaire. Il y a des modèles assez classiques en biologie, par exemple de la catalyse ou des choses comme ça. On n'a pas besoin de la préciser. Il suffit de savoir que c'est une fonction non linéaire de A et de I, à condition qu'elle soit compatible avec ça. C'est-à-dire qu'il favorise la production d'inhibiteurs et qu'il favorise la production d'activateurs. Et puis, pour l'inhibiteur, c'est pareil. DI sur DT, alors ça c'est le coefficient de diffusion de l'activateur. Il y a DI qui est le coefficient de diffusion de l'inhibiteur, radian carré I. Et puis, il y a des réactions chimiques aussi qui vont produire ou détruire l'inhibiteur. Donc, c'est une autre fonction, G. C'est sans que cette fonction-là, plus il y a d'inhibiteurs, plus on décrit l'activateur. Et plus il y a d'activateurs, plus on produit d'inhibiteurs. C'est les seules contraintes qu'il faut fixer. Et ce qu'étudie Turing, c'est ces deux équations-là, dans un cas très très général, simplement en regardant des petites variations, et il nous donne tous les cas possibles qu'on va pouvoir observer. Je m'arrête là, je reprendrai là la semaine prochaine. Ce dont je vous parlais après, avant de passer vraiment à la physique pour la biologie, c'est ce que nous apprend la dynamique des populations, qui est importante dans tous les tissus. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.